Eh bien, le plaisir d'avoir à nouveau dans les studios de Radio SBS Philippe Platel, qui est l'attaché culturel de l'ambassade de France en Australie, accompagné de François Réau, qui est un artiste in residence, comme on dit, qui nous vient directement de Bandanan, de Nouvelle-Galles du Sud. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Philippe, vous emmenez beaucoup de nouvelles, beaucoup de nouveautés aussi pour 2018, n'est-ce pas?
Ouais. Bah oui, là c'est Noël, donc j'arrive avec plein de projets dans la hotte. C'est la période où on fait les grandes annonces, donc c'est le moment de laisser partir tout le monde en vacances en ayant déjà mis quelques petites dates dans son agenda pour la rentrée 2018 en Australie. Et il y a effectivement beaucoup de choses qui arrivent en janvier, février, mars. Il y aura encore plein d'autres choses après, mais on va se concentrer sur le premier trimestre. Déjà, il y aura déjà bien assez de choses à faire.
Pour la première fois, c'est l'Adelaide French Festival.
Le French Festival, ouais, à Adelaide, qui s'appelle Festif, qui aura lieu un long week-end, 12, 13, 14 janvier. La soirée d'ouverture, en quelque sorte, en tout cas, le festival est en partenariat avec So Frenchy So Chic, qui pour la première fois présentera une étape à Adélaïde. Et d'ailleurs, ce sera l'étape inaugurale de la tournée, puisque c'est le So Frenchy So Chic aura lieu à Adélaïde, puis à Melbourne, puis à Sydney. Donc ça, c'est très très excitant de voir le So Frenchy So Chic avoir le courage de se lancer dans une troisième étape dans une ville qui devient très francophone et qui va avoir une communauté française importante, francophone et francophile surtout. Donc le 12 au soir, So Frenchy So Chic, dans une version différente encore de ce qu'elle est à Melbourne et à Sydney. Ensuite, il y a tout un programme que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Adelaide Festival Center, mais il y a quelques highlights quand même qu'il faut bien avoir en tête de programmes d'artistes qui viennent de France et qu'il ne faudra pas rater. Notamment un pianiste qui s'appelle Frédéric Weissnitter qui interprétera un programme Debussy. C'est un spécialiste de la musique polonaise et française. Et Debussy, le programme va être absolument magnifique, je pense. Et d'ailleurs, c'est son actualité puisqu'il va sortir un disque Debussy. Et il se trouve que le Festival Center, l'Adelaide Festival Center, voulait trouver un artiste, un pianiste qui pouvait proposer un beau programme Debussy. Donc forcément, je l'aurais suggéré. Frédéric Weissnitter, sachant son actualité. Donc ça, c'est très bien. Il y a une exposition de photos de Michel Sedbon sur Paris. Un Paris avec une lumière très contrastée, des noirs et blancs très beaux sur Paris. Une compagnie de théâtre qui s'appelle Vélo Théâtre, qui proposera un spectacle assez court en plusieurs fois pendant le festival, pour la famille en général. Du théâtre d'image, on va dire, qui va pour un public très jeune et plus âgé, donc pour toutes les générations en fait. Voilà dans les grandes lignes. Il y aura également François M.B. Atlas Mountain qui donnera un concert pendant le festival, et le public de Sydney et Melbourne pourra le retrouver également pendant le So Frenchy So Chic, dans chacune des éditions. Donc voilà, alors il y a plein d'autres choses pendant ce festival, mais c'est une première, donc ça on est très curieux de voir ce que ça donnera, et c'est une première édition donc qui s'est décidée assez tardivement aussi. Donc ça a été très courageux de la part de l'Adelaide Festival Center de se lancer dans cette aventure et de trouver des compagnies surtout disponibles en un si court délai. Donc ça, c'est en janvier, on commence l'année avec ça. Alors il y a aussi une autre chose que je voudrais préciser juste avant, c'est la présence de photos d'un photographe qui s'appelle Samuel Gratacap, qui sera présenté à l'Université of New South Wales à Sydney pendant le Sydney Festival. Ça va être une très belle exposition aussi. Ensuite, donc en février, alors là, il y a un très très gros événement à Sydney, à la Art Gallery of New South Wales. C'est la venue d'un des plus grands trésors des collections françaises, qui est la série de tapisseries appelée « La Dame à la licorne » du musée de Cluny, le musée du Moyen-Âge de Paris. C'est un événement unique, puisque cette œuvre du début du XVIe siècle, hein, pas toute jeune,
ne bouge
jamais. Elle a bougé dans les années 70 à New York pour une raison très précise, c'est qu'elle a une cousine dans les cloisters de New York. Les cloisters, c'est un cloître qui appartient au Met, qui s'appelle la chasse à la licorne. Donc c'était un événement unique de représenter ces deux œuvres en dialogue pour la première fois. Et plus récemment au Japon, parce qu'elle elle venait d'être sortie du musée pour une rénovation importante, donc c'était l'occasion de la montrer à un public qui l'adore. Le public japonais adore cette tapisserie, et on comprend tout à fait pourquoi. Donc ça, il faut vraiment qu'on soit tous collectivement français et australiens très très fiers de cette visite, puisqu'après l'Australie, ce sera certainement son dernier voyage avant très très longtemps.
Et c'est uniquement à Sydney.
Uniquement à Sydney, parce qu'effectivement c'est un événement unique. Elle est très fragile déjà, donc déjà de la transporter jusqu'en Australie, c'est quelque chose. Hein. Alors bien entendu, il y a aucun risque n'est pris. Chaque tapisserie prend un avion différent. Le conditionnement de l'œuvre, enfin, tout ça est fait par des grands professionnels, hein, à la fois de la part du musée de Cluny et de la Art Gallery. Tout est super sécurisé. Hein. Mais voilà, c'est une œuvre qui, une fois qu'elle sera retournée dans ses collections, elle bougera plus. Donc ça va être l'occasion à la fois pour le public français qui la connaît de Paris, de la revoir et de la revoir dans un contexte très différent, hein, de son écrin habituel. Et par ailleurs, c'est surtout l'occasion pour le public qui ne la connaît pas, français et australien, de la voir à Sydney. Elle est d'une actualité incroyable. On parle beaucoup de la licorne en ce moment. Hein. Vous voyez tous les t-shirts avec des licornes partout. C'est vraiment un animal imaginaire qui plaît beaucoup aux jeunes actuellement, avec beaucoup de références aussi, hein, même sexuelles. Et d'ailleurs, la série de tapisseries a toute cette iconographie et toute cette charge érotique également. C'est donc une série de six tapisseries datant du début du XVIe siècle. La date n'est pas très précise. L'histoire de cette tapisserie, de cette série, est assez mystérieuse d'ailleurs. Enfin, pendant longtemps, il y a eu un débat sur qui l'avait commandé, qui l'avait possédé ensuite. Son histoire par la suite, elle a été en fait retrouvée. C'est Georges Sand en fait qui l'avait identifiée, puisqu'elle habitait pas très loin de Boussac où elle était accrochée à la sous-préfecture de Boussac, hein, dans un château. Et Georges Sand l'avait vue plusieurs fois. Elle a même fait référence à cette tapisserie dans beaucoup de ses écrits. Alors de façon très romancée, hein, elle a imaginé plein de légendes autour de cette tapisserie, parce que forcément c'est une tapisserie très sensuelle qui représente donc six scènes différentes avec une dame et donc une licorne et plein d'animaux partout. C'est vraiment d'une finesse incroyable pour l'époque. Les couleurs, la richesse des couleurs, les animaux et la charge symbolique surtout. Je pense qu'il y a eu plein d'interprétations qui ont entouré cette œuvre. Donc l'interprétation la plus à jour, c'est que cette œuvre représente les cinq sens. Et effectivement, c'est assez clair. Hein, non. Chaque scène représente un sens. Et il y a donc un fameux sixième sens qu'on devine être le désir ou quelque chose d'un peu plus spirituel aussi. Et c'est la pièce centrale un peu de la tapisserie, de la série de tapisseries, qui est la plus énigmatique, celle de ce fameux sixième sens. Donc c'est pour ça aussi que Georges Sand a sans doute été intrigué par cette tapisserie. D'ailleurs, elle dit qu'il y avait 8 pièces à l'époque. Et alors on dit qu'apparemment 2 pièces auraient été, c'est horrible à entendre, mais auraient été découpées en petits morceaux pour faire des petits bouts de tapis pour mettre sur des charrettes. Donc vous imaginez le carnage. Donc il en reste 6 en tout cas, et c'est Prosper Mérimée qui ensuite, sur les conseils de Georges Sand, l'a inscrit à l'inventaire des trésors nationaux, des monuments historiques. Et donc elle est maintenant à Cluny. Que dire d'autre? Ah ben si, quelque chose d'un peu anecdotique, mais de rigolo quand même. Hein. Vous pouvez la voir dans Harry Potter aussi. Ça, c'est, c'est quand même... donc, le public fan de Harry Potter, il est nombreux, pourra revisionner le film après avoir vu la vraie tapisserie. Et il y a une reproduction de la tapisserie dans certaines scènes d'Harry Potter. Hein, où vous pouvez taper Harry Potter d'Amal Alicorne sur Google. Vous allez voir. Ouais. Donc ça c'est un événement unique qu'il ne faut absolument pas rater. Il y en a d'autres après. Donc là on est en février, ça ouvre le 10 février, c'est jusqu'au 24 juin. Ça dure assez longtemps. Hein. Il y a vraiment l'occasion d'aller à Sydney et d'aller voir cette œuvre. Donc je trouve ça c'est vraiment formidable parce que c'est la rencontre de deux équipes très professionnelles. L'équipe du musée de Cluny, la directrice Elisabeth Taburet de La Haye, sa secrétaire générale Marie-France Cocheteux, qui sont venues plusieurs fois à Sydney. On leur a fait rencontrer Michael Brandt et Maud Page à la Art Gallery, d'autres très grands professionnels. Donc tout se passe très très bien et c'est vraiment une grande fierté de la part de l'ambassade d'avoir pu faire en sorte que des personnes de cette qualité se rencontrent et fassent naître ce beau projet. D'autres projets à venir ensuite en mars. Alors il y a
en février, Philippe, il y a aussi Piaf avec une présence française assez importante.
Ah, le Piaf, pardon. Oui,
International Arts
Festival.
Oui,
pardon. Quand j'ai entendu Piaf, j'ai pensé tout de suite à Edith, évidemment, puisque quelqu'un va jouer va chanter aussi va faire un spectacle sur Edith Piaf pendant le festival à Adélaïde, le festival français Adélaïde. Donc j'avais oublié de parler de Piaf. Non, le Piaf, oui, il y aura la compagnie XY, qui est une compagnie de cirque, qui sera au Piaf ensuite en fin février. Donc, l'exposition Cartier qui ouvrira le 30 mars à Canberra, donc très grande exposition, 300 pièces des collections de Cartier, mais aussi d'autres collections, dont des collections de la famille royale d'Angleterre. Pour les fans, il y aura la fameuse tiare qui s'appelle Halo, que portait Kate Middleton pour son mariage. Hein. Il y a des bijoux d'Elizabeth Taylor. Enfin, c'est un projet, c'est une exposition qui me tient à cœur, forcément, personnellement, parce que on a présenté une exposition Cartier au Grand Palais quand j'y travaillais. Donc, je connais bien la maison Cartier et c'est un très, très bon souvenir. D'ailleurs, ça me permet, par la même occasion, de faire une petite aparté aussi sur un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, puisque pendant cette exposition Cartier, on avait une fresque vidéo qui avait tourné pendant toute l'exposition dans l'exposition Cartier, qui avait été créée par Antoine Emmanuel, deux artistes graphistes et vidéastes de Paris, qui vont venir qui reviennent puisqu'ils sont déjà venus en Australie. Ils avaient fait la White Nine de Melbourne à la State Library et là ils reviennent à Adélaïde pendant l'Adélaïde Festival. Ils feront le week-end de clôture de l'Adélaïde Festival avec une vidéo qu'ils ont créée en résidence dans le cadre de notre programme de résidence. On va en parler tout à l'heure avec François. Ils sont venus en octobre pendant 3 semaines pour créer cette vidéo qui sera sur le thème de l'animal. Donc j'en dis pas plus, mais en fait ça aura lieu à la Barr Smith Library qui fait partie de l'Université d'Adélaïde le 16 mars. Et la library va être transformée successivement en bestiaire, en jungle, en organismes vivants, en océan, en soleil. Enfin, ça va être absolument extraordinaire. Donc, ça, il faut pas le rater. C'est la clôture du Festival d'Adélaïde. Ça, j'en suis très, très content aussi. Donc, ça fait le lien avec Cartier, puisqu'évidemment, ils ont cette histoire avec Cartier. Après le lendemain en fait de l'ouverture de Cartier, il y a une actualité incroyable là en mars, janvier, février, mars. Le lendemain, ou le même jour en fait, le 29 mars, ouvre, et toujours à Adélaïde, une très très grande exposition impressionniste à la Art Gallery of South Australia, qui s'appelle Colors of Impressionism, avec 70 chefs-d'œuvre du musée d'Orsay qui viennent pour l'événement. Donc les Monet, les Renoir, enfin tous les grands noms, sur le thème de la couleur, dans un dispositif qui va occuper une bonne partie du musée. Donc ça, c'est un très, très, très gros événement aussi à Adélaïde. La Dame à la Licorne, Cartier, l'impressionnisme, là, on a vraiment des projets de très grande envergure qui viennent en Australie. L'amitié franco-australienne est définitivement scellée. Et pour longtemps, on l'espère. En mars aussi, le 16 mars, ouvre la Biennale de Sydney. Ça va être un très gros événement. La commissaire Mami Takaoka réunit 70 artistes partout à Cockatoo Island, OMCA, Art Space, Art Gallery of New South Wales, Carriage Works. Et à Carriage Works, justement, sera présentée la vidéo de Laurent Grasso, qui est un artiste français, visuel, qui fait beaucoup de choses très différentes, des installations, mais aussi de la sculpture, des peintures et de la vidéo. Et donc là, c'est un film qu'il a filmé à Uluru et qui sera une grande vidéo, un grand paysage. Enfin, je voudrais pas trop en dévoiler quand même parce que ça devrait être assez magique et plein de mystères. Donc, je pense qu'il faut le voir en vrai. Mais ça évoquera la mythologie du désert australien. Et il essaiera de rendre visibles les mythes invisibles qui survolent le désert australien. Donc ça, j'ai très très hâte de voir le résultat le 16 mars à Carriage Works. Bah, après, on va arriver à un moment fort de l'année, évidemment, c'est le French Film Festival, la 29e édition qui débute le 27 à Sydney, le 28 à février à Melbourne, le 1er à Canberra. Après, vous avez les dates à Brisbane, à Perth, à Adélaïde, à Hobart.
Et une très belle sélection cette fois-ci,
50 films. Je suis bien content de les avoir tous vus parce que si je les avais pas vus, je sais pas comment je ferais pour choisir. Parce que en plus là, franchement, le cinéma français a produit des merveilles et à la fois
et
dans la
visionnez catég... combien de films oh, en
je
moyenne
sais pas. Honnêtement, je saurais pas dire, je les compte
200.
Pas. Je compte pas parce que je sais pas. Franchement. Ça dépend aussi des périodes. Mais c'est sûr que pour choisir 50, il faut en voir plus. On ne tombe pas toujours sur ce. Puis après, il faut faire des choix parce qu'il ne faut pas non plus présenter 100 films. En tout cas, sur une période comme courte d'un mois, déjà 50 films, c'est un beau nombre. Mais il y a tellement eu de films cette année. C'est incroyable. Vraiment. Et qui sont récompensés dans les festivals. Et dans toute catégorie confondue, à la fois les films très grand public, les grandes comédies. L'année dernière, on m'a beaucoup dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de comédies. C'est vrai, mais c'était aussi parce que la production cinématographique était ainsi. Il y avait moins de comédies. Et là, gros raz-de-marée de comédies et des bonnes. Donc là, il y aura un petit peu plus de comédies, des grands, les grosses productions françaises avec les grands noms. Et puis des films aussi, les petits bijoux à ne pas rater. Les chouchous des festivals un petit peu plus arty comme on dirait, art house avec des choses qui sont parfois des films magnifiques je pense notamment à 120 battements par minute qui est un des grands événements de l'année, qui est le grand prix au festival de Cannes qui est un gros succès en France. Donc ça, c'est il y a plein de films comme ça. Il y a des films plus il y a aussi les succès surprises, des films qui ont eu un grand succès, des plus petits films qui ont eu un grand succès, comme par exemple Jeune femme qui s'appelle Montparnasse Bienvenue en anglais, qui a eu la caméra d'or à Cannes, qui est un très très beau un très joli film de Léonore Serrail avec une Laetitia Doche hallucinante, hyper drôle, touchante, elle est de toutes les scènes du film. Et un autre petit film qui s'appellera en anglais ici Bloody Bilk, Petit Paysan, qui a été vraiment la bonne surprise. Ça a été une des révélations du Festival de Cannes et que le public français a vraiment plébiscité. Ça a très bien marché. C'est c'est un thriller psychologique sur le thème de la vache folle chez un jeune fermier. Ça a été tourné par un réalisateur qui d'ailleurs dans la ferme de ses parents, donc c'est vrai, il connaît bien son histoire. Je pense aussi, enfin il y a des tas de, il y a plein de films. Le programme sera révélé
fin janvier.
Voilà, bientôt. Il va falloir booker son mois de mars. Vraiment là. Entre les grosses productions, les comédies, les films où on retrouve aussi des actrices ou des acteurs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Je pense à Sandrine Bonnaire dans Prendre le large, qui est un film sublime de Gaël Morel. Je pense à Fanny Ardant qui joue le rôle d'un transsexuel. Je pense à Nathalie Baye et Laura Smet dans Les Gardiennes. Enfin, il y a plein de films. Il y a Mélanie Laurent et Jean Dujardin dans une comédie historique. Ça va être, alors là, ça va être quelque chose, hein. C'est un peu OSS 117 chez Napoléon, donc ça promet. Il y a plein de merveilles. Il y a un autre film qui me tient beaucoup à cœur dans la catégorie vraiment, alors là, très artistique, c'est le documentaire de Clément Cogitor qui s'appelle Braguino, qui a été un très très gros succès en France, d'abord en format installation visuelle, installation vidéo au BAL à Paris, et ensuite qui est sorti sur les écrans, critique toute extrêmement positive, dithyrambique, enfin, c'est un très très beau. Il y a deux documentaires cette année dans le festival. J'ai voulu présenter des documentaires qui sont à la limite du film très esthétique. C'est presque pas des documentaires. Hein. L'autre s'appelle Kobe, c'est en anglais, c'est tourné aux États-Unis. C'est l'histoire aussi d'un transsexuel, d'une jeune fille qui devient un garçon, soutenue par sa famille. C'est bouleversant, c'est vraiment très beau. Et visuellement, c'est incroyable. Les Braguino, c'est pareil, c'est une installation vidéo. Il faut le voir sur grand écran. C'est sublime. Vraiment, voilà. Donc, dès que le site du festival est ouvert, jetez-vous sur les billets, parce qu'il y a énormément de choses et il va falloir faire son choix. On va travailler avec l'Alliance française, avec les Alliances françaises, qui vont faire un travail incroyable aussi pour faire en sorte que les gens puissent aussi plus facilement trouver leur chemin sur le site en mettant des classements par recommandés par tel ou tel média partner, ou si vous aimez les films historiques, vous aimerez ça. Enfin, il y aura plusieurs portes d'entrée pour aboutir à certains films. Donc voilà, là, mais je vous en dirai plus quand j'ai déjà dit beaucoup, cela dit.
fin février.
Ouais, fin février, on pourra en parler un peu plus, ouais. Quand on pourra révéler le film d'ouverture, qui va être un grand moment, et les guests, et puis tous les highlights. Nous avons cette année, de nouveau, le parrain aussi du festival, qui est David Stratton, qui lui aussi va livrer son avis sur certains films qu'il a pu voir. Voilà. Donc il y a, mais j'en dirai plus plus tard.
Philippe, vous êtes accompagné de François Réau, oui, qui sort de sa résidence à Bandanon, en Nouvelle-Galles du Sud. Vous pouvez nous en parler ?
Alors oui, avant de lui laisser la parole, je rappelle juste le contexte. Mm-hmm. On a développé depuis un an à l'ambassade un réseau de résidences d'artistes pour des artistes français émergents, ou un petit peu plus, ou moins émergents aussi. Un peu partout en Australie, il faut qu'on le développe encore dans certains territoires. Ça marche de plus en plus. On reçoit des candidatures d'artistes connus, qui ont un très beau bagage, qui sont soutenus par des fondations, des galeries. Donc, il y a une chose qui est certaine après un an à avoir fait ce travail pour promouvoir le programme et trouver des bons partenaires avec lesquels travailler en Australie, dans tous les territoires, on se rend compte quand on reçoit les candidatures, et là on a reçu celle pour Bandanon, mais qui pourront nous permettre aussi d'orienter des artistes vers d'autres programmes ailleurs en Australie. On se rend compte que l'Australie est extrêmement attractive pour les artistes visuels, enfin les artistes en général d'ailleurs, pas que visuels. Hein. Et c'est vrai que là cette année, on a eu beaucoup d'artistes qui sont venus en résidence. Hein. je crois que venir en Australie, c'est une étape particulière pour un artiste. Et là, je pense que François pourra le dire plus, encore mieux que moi. C'est pas comme simplement aller à Berlin, ce qui est déjà aussi une très belle étape dans une carrière d'artiste. C'est vraiment autre chose et c'est une étape qui peut un peu transformer votre pratique. Parce qu'aussi, à l'occasion de résidence, vous rencontrez d'autres artistes qui sont des artistes australiens ou qui viennent d'ailleurs. Et donc, cet échange, ça permet plein de choses. Donc, on a eu Benjamin Just l'année dernière, qui ensuite a eu son exposition à Bundaberg, qui a eu son exposition à l'Alliance de Melbourne. François est donc le deuxième artiste à participer à ce programme à Bundaberg. Il y a eu Perrine Lacroix, qui est venue à Launceston pour un programme de résidence qu'on a développé. C'était une première édition et on espère qu'on la renouvellera. Très, très beau programme aussi, qui a eu lieu en octobre. Elle a fait un très beau travail sur un lieu en particulier qui était une ancienne usine qui fait partie maintenant du musée de Launceston. Elle a rencontré le dernier ouvrier qui travaillait dans l'usine et ça a été une révélation sur ce qu'elle voulait faire ensuite. Et alors là après c'était la créativité était lancée et elle a fait un travail d'une intelligence, d'une finesse sur ce lieu, ces personnes qui travaillaient ici, sur aussi la culture aborigène mais avec beaucoup de délicatesse. Et sur le thème des outils, de l'époque où les colons sont arrivés, les outils avec lesquels les communautés aborigènes pouvaient survivre avec seulement 22 outils. Le fruit de sa recherche, c'est qu'il y avait 22 outils avec lesquels ils pouvaient survivre et vivre bien et heureux et en harmonie. Et par rapport à aujourd'hui, où on a une multitude d'outils, notamment d'outils virtuels. Et donc, elle a fait ce travail entre les outils réels et virtuels et notamment toutes ces petites icônes qu'on a sur nos téléphones maintenant et ces outils qu'on démultiplie à l'infini et qu'est-ce qu'il en reste finalement de cette profusion d'outils. Donc c'était un très beau travail sur l'histoire d'un lieu. C'était la demande aussi hein, dans le cadre du partenariat avec l'université de Tasmanie. On a également un partenariat avec l'université d'Adélaïde donc pour ce programme de résidence avec lequel on a fait venir Antoine Emmanuel et on devrait avoir un autre invité l'année prochaine vraiment qui va faire un travail extraordinaire. Voilà, donc il y a pour les années à venir de très belles perspectives pour les artistes visuels et les artistes de tout type, de toute discipline français qui veulent venir en Australie. C'est un terrain d'expérimentation incroyable. Mais voilà, donc et avec un contact aussi avec la nature, mais pas que, hein, mais la nature c'est un aspect important de cette expérience et notamment un bon Danone. Et donc là je pense que je peux laisser François en dire un peu plus puisqu'il vient d'être délivré de sa forêt. Où il est resté presque 6 semaines.
François Réau, rebonjour.
Rebonjour.
Alors, vous avez passé 5 semaines à Bundaberg pour préparer justement cette exposition à l'Alliance française de Melbourne, prévue au mois d'avril, c'est ça?
Au mois d'avril, c'est ça, tout à fait. D'où ma présence ici pour rencontrer un petit peu les personnes qui s'occupent donc de l'Alliance française. Donc ensuite, effectivement, par rapport à cette résidence, donc... c'est vrai que, comme l'expliquait Philippe Platel, il y a vraiment quelque chose de très particulier pour un artiste visuel que moi, effectivement, j'avais un petit peu peut-être anticipé dans mon travail. C'est quelque chose que je pouvais rechercher par rapport justement à un environnement, une nature très très présente, effectivement, mais où on peut sentir peut-être quelque chose de très sauvage, peut-être un petit peu à la limite de quelque chose de dangereux, et donc c'est vrai que par rapport à mon travail, moi ce que j'ai cherché à développer donc lors de cette résidence, c'est plutôt un travail qui tourne autour donc du temps et de l'espace. Donc c'est une résidence qui se trouve vraiment perdue dans le bûche. On est à peu près à 40 minutes de la ville la plus proche. Comme ça a été expliqué effectivement auparavant, le gros avantage de cette résidence, c'est qu'on rencontre effectivement d'autres artistes, pas seulement plasticiens, il y a d'autres disciplines, ce qui permet de créer vraiment une émulation. Donc c'est très positif, très très enthousiasmant aussi de pouvoir rencontrer des artistes australiens ou d'autres cultures. Et donc pour cette résidence, moi j'avais un travail qui était plutôt tourné autour du dessin et de l'installation, et vraiment sur, on va dire, du dessin, plutôt prospectif. Voilà, donc j'ai créé une drawing machine, donc une machine à dessiner, qui est un petit peu à la limite du dessin performatif. Voilà, et donc vraiment dans le contexte, c'est une pièce qui fonctionne uniquement dans le lieu où elle est produite. Voilà, parce qu'il y a un fort rapport donc à l'espace et au temps. Voilà, tout ça avec l'aide de cartes et de cartes autour du territoire de Bendanon.
Et votre parcours comme artiste remonte à quelle époque? Vous avez commencé où?
Ça fait plusieurs années que je pratique. Moi, j'ai une double formation, voilà, en France, à l'école des arts appliqués de Poitiers, également les Beaux-Arts, l'école régionale des Beaux-Arts de Poitiers. Et ensuite, je suis monté à Paris. Voilà, donc ça fait plus d'une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années que je travaille à Paris.
Voilà. Et vos expositions voyagent à travers la France?
Oui, tout à fait. J'ai exposé plusieurs fois en France, à Paris, également en Belgique, en Angleterre. L'année prochaine, j'ai une très belle actualité. Donc, je vais revenir effectivement donc, au mois d'avril à Melbourne. J'ai également une exposition qui est prévue à Munich, pas très loin de Lausanne également. Donc non, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation là, actuellement.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à postuler pour être artist in residence à Bendanon?
Alors effectivement, c'est peut-être effectivement ce désir d'ailleurs. C'est totalement différent, effectivement, comme on est dans l'hémisphère sud, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Et effectivement, la nature, les éléments sont complètement différents. Donc moi, c'est vrai que j'ai un travail qui est beaucoup axé autour de ces choses-là, du changement, du paysage, enfin de l'espace du paysage plutôt. Et donc j'avais vraiment envie de découvrir ça, de pouvoir confronter ma pratique. Voilà, ces éléments qui sont quand même très particuliers. Et ce qui m'a permis, effectivement, comme pouvait le souligner Philippe tout à l'heure, d'essayer des choses. Donc c'est vrai que là, cette résidence m'a permis aussi de tester un petit peu la vidéo. Donc c'est quelque chose que je vais présenter là, en avril prochain. Donc c'est vrai que ça offre pas mal de possibilités, en fait, en termes d'infrastructures, mais aussi des gens qu'on peut rencontrer. C'est vraiment un endroit très très particulier.
C'est comme une communauté qui aurait été jetée au milieu du bush, dans une forêt entourée de kangourous.
Dans un monastère?
Non, c'est des cottages, des appartements, mais qui sont configurés de telle manière que les artistes ne peuvent pas s'éviter. De toute façon, ils n'ont pas envie de s'éviter, je pense, mais ils sont plus, ils s'invitent plus qu'ils s'évitent. Il y a une petite cour centrale et les appartements sont autour de cette cour, donc ils se font face. Et cette configuration circulaire de la résidence fait que il y a un vrai croisement des disciplines, et c'est ça c'est vraiment un aspect presque magique du lieu. C'est que là, François est le deuxième artiste, et c'est le deuxième qui revient en disant j'ai essayé telle discipline, j'ai essayé la photo, Benjamin Juste avait essayé la photo, et on a présenté de la photo finalement pour son exposition ici, alors qu'il faisait plutôt de l'installation. François a rencontré quelqu'un qui fait de la vidéo, une poète, quelqu'un qui fait de la performance. Donc tout ça va être mélangé à son travail, et c'est ça aussi qui est beau dans l'aventure australienne pour des artistes français, c'est qu'ils reviennent en ayant tenté des choses qu'ils n'avaient pas tenté avant à Bendanon. Parce que de toute façon, ils sont 6 semaines dans le bush. Alors, ils ont quand même un wifi, ouf. mais c'est le seul contact qu'ils ont avec l'extérieur. Et François, enfin, il travaillait depuis à 5h du matin, il était déjà en train de travailler. Parce que c'est un endroit qui incite, qui inspire.
Le travail. Et on est vraiment travail. En plus. C'est vrai que on est très calqué en fait sur les saisons, c'était quand même 5 semaines de résidence, mais on est vraiment calqué sur le temps de la journée. Donc le soleil se lève très tôt. Et donc il y a un rythme de travail qui s'installe un petit peu comme ça, où on est vraiment un petit peu collé un petit peu au, voilà, effectivement à la journée, au cycle de la journée. Donc c'est vraiment très très inspirant, et on est vite pris en fait par tout ça en fait.
C'est le bon moment de l'année d'être en résidence. C'est pas l'hiver, c'est...
Non, oui, voilà, c'est une bonne période. Novembre, novembre, décembre. Et aussi, une chose qu'il faut préciser, c'est que notre partenariat avec Brendan & Trust, hein, qui est l'établissement qui gère ces résidences et avec lesquels on travaille et qui font un travail formidable avec les artistes. La base de notre partenariat, c'est que l'artiste français qui vient en résidence reste 6 semaines, ce qui est plutôt atypique. En général, les artistes restent plutôt 3 semaines, voire moins. On part du principe qu'un artiste français vient de plus loin, un artiste doit rester un peu plus longtemps. Et du coup, ça permet à l'artiste qui vient de rencontrer encore plus de monde, parce que les autres restent, eux, 3 semaines. Donc, il a en général 2 vagues d'artistes, si ce n'est plus, à rencontrer. Et cette durée aussi, elle est importante dans le travail. D'ailleurs, l'exposition de François à l'Alliance de Melbourne, qui ouvrira donc le 18 avril prochain, fera référence à ce temps et au temps passé heure par heure dans la forêt.
Oui, parce qu'effectivement, il y a une installation, sans trop dévoiler le dispositif. J'avais envie d'expérimenter effectivement ce temps de résidence, qui est quelque chose de peut-être très relatif, mais voilà, essayer de lui donner une consistance et une matérialité, ce qui est très difficile lorsqu'on parle de temps. Et donc, mon temps de résidence équivalait à peu près à, pour être très précis, 888 heures. Et donc, j'ai collecté 888 fragments de nature qui représentent un petit peu, voilà, c'est une sorte de métaphore un petit peu poétique autour de la nature. Donc, c'est 888 fragments de nature qui seront présentés dans un dispositif, voilà, une installation à l'Alliance française.
Rendez-vous à partir du 18 avril 2018.
Tout à fait.
Voilà.
Avec grand plaisir.
Messieurs, merci d'être venus nous rendre visite.
Merci,
à SBS. Et on se reparle l'année prochaine.
On se reparle l'année prochaine, oui, pour parler film.
Pour parler du cinéma français.